Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est accompagné de M. Philippe Gifournier, professeur de physique et d'astronomie au cégep de Saint-Laurent, mais également un statisticien politique, si je peux me permettre l'expression, on va pouvoir en discuter avec M. Fournier. C'est le créateur de Québec 125 et de 338 Canada, notamment des sites, des banques de données statistiques par rapport aux élections. Bonjour, M. Fournier.
Bonjour.
Est-ce que vous allez, comment vous allez?
Ça va très bien. Merci de me recevoir. C'est très apprécié.
La moindre des choses. Donc, pour commencer, j'ai une question pour vous. Tout d'abord, d'où est venue l'idée d'entamer des travaux comme vous le faites à Québec 125, mais aussi à 338 Canada, et ainsi vos analyses politiques, notamment sur les magazines de l'actualité. Est-ce que c'est une passion commune aux mathématiques et à l'astronomie, notamment? Comment est partie cette idée?
C'est un peu un accident. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je faisais quelque chose comme ça aujourd'hui, les analyses politiques, je suis pas sûr que je ne vous aurais cru. Moi, je suis astrophysicien, donc j'ai étudié astrophysique à l'Université Laval. Et en astrophysique, ben, c'est la branche de la physique qui utilise énormément d'informatique. On écrit des programmes pour analyser les images. Et donc, évidemment, là-dedans, il y a beaucoup de statistiques, comprendre le bruit, comprendre les marges d'erreur, comprendre bon tout ça. Et donc, tout ça a commencé réellement lors de l'élection de 2016 aux États-Unis entre Mme Clinton et Donald Trump. Je commençais à suivre les chiffres. Je me suis fait une petite feuille Excel, toute modeste, en suivant les chiffres. Et je remarquais qu'il y avait vraiment un grand écart entre la réalité des chiffres et l'analyse politique des spécialistes aux États-Unis. Et donc, je ne veux pas évidemment tous les mettre dans le même panier parce que ce serait injuste, mais plusieurs médias américains et plusieurs spécialistes qui disaient que c'était quasiment impossible que Donald Trump l'emporte. Alors que les chiffres ne disaient pas ça du tout. Et bien sûr, M. Trump n'était pas le favori dans la course, mais lorsqu'on compilait les chiffres état par état, et c'est ce que je faisais sur ma petite feuille Excel à l'époque, je remarquais que c'était beaucoup plus serré que ce qu'on laissait entendre. Et je me souviens d'être demandé, est-ce que c'est moi qui ai tort? Est-ce que c'est moi qui ai dans le champ? Est-ce que les chiffres sont si clairs que ça, alors que moi, je voyais beaucoup d'incertitudes? Et lorsque Donald Trump a gagné en novembre 2016, je me rappelle avoir dit, bon, ben voilà. Et donc, encore une fois, je répète, Trump n'était pas le favori, mais mon analogie de hockey que j'aime bien utiliser, c'est que le Canadien de Montréal n'était pas les favoris contre les Golden Knights de Las Vegas. Les spécialistes de paris sportifs disaient environ 70% des chances de gagner pour les Golden Knights et 30% pour le Canadien. Et c'est à peu près les mêmes stats que j'avais pour Donald Trump. Et donc, après ce choc-là, j'ai commencé à me dire, ben, est-ce qu'on a quelque chose au Québec et au Canada qui pourrait ressembler à de l'analyse purement chiffrée, non partisane, sur nos élections à nous? Et donc, j'ai commencé le blog que j'ai appelé QC125. Et au début, c'était, comment je pourrais dire, pas que c'était populaire, mais c'était très obscur, mais en même temps, je voyais que plusieurs journalistes me posaient des questions. Des journalistes qui, malgré qu'ils soient très compétents dans leur profession, ce n'est pas des gens qui font beaucoup de mathématiques dans leur parcours. Et donc, je venais comme en aide à leur analyse en leur fournissant des chiffres et des analyses chiffrées. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et avec l'élection en Ontario en 2018, puis l'élection québécoise quelques mois plus tard, toujours en 2018, le site a été extrêmement populaire. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et voilà, aujourd'hui, je vous parle. Donc, c'est là que ça m'a mené.
Donc, si je peux résumer, la création de Québec 125, dans le fond, est venue, dans le fond, peut-être combler un vide qui existait, selon vous?
Ben, c'est ce que je crois. Je me rappelle, et là, encore une fois, je fais très attention parce que je ne veux pas mettre tous les journalistes dans le même panier. Des fois, il y a des journalistes qui se font assigner des chroniques auxquelles ils ne sont pas vraiment familiers. Mais je me rappelle d'avoir vu une chronique dans un journal sur un sondage québécois qui disait « Ah, le PQ a grimpé d'un point. Le mois dernier, il avait perdu un point. » Moi, j'étais comme « Non, c'est des fluctuations statistiques. Tout ça, c'est normal. » Et donc, je me suis dit « Pourquoi pas avoir un œil de scientifique pour analyser ces chiffres-là ?» plutôt que des journalistes qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais comme j'ai dit, qui ne font pas beaucoup de mathématiques ou qui ont de la misère à saisir le bruit dans les données. Et donc, oui, je pense qu'il y avait un vide. Et donc, et clairement, je veux dire, ce vide-là, je ne veux pas dire qu'il a été comblé, mais il y avait une demande pour ce genre d'analyse-là. L'année suivante, en 2019, le magazine Maclean m'a approché pour faire des analyses en anglais, pour le Canada anglais. Ce que j'ai fait pendant 3 ans, et maintenant, Maclean a changé de direction. Maclean ne couvre plus beaucoup la politique, et donc j'écris pour le site Politico en anglais, et toujours l'actualité en français.
Si je peux relancer sur l'avènement de ces projets statistiques, est-ce que, là on se parle en 2022, est-ce qu'en 2016 vous pensez que ce travail-là allait prendre autant d'ampleur et que, puis ça va être, ça va peut-être être un hot take de ma part, désolé l'anglicisme, mais que vous jouez quand même un rôle systématique dans le sous le plan des élections au Québec notamment, votre analyse à l'actualité, on en a parlé énormément sur le plan dans les médias, donc comment vous, avec ce développement-là de vos projets, est-ce que vous l'aviez vu venir? Comment vous sentez par rapport à ça?
Non, je ne l'avais pas vu venir. Bien sûr, ça fait quelques années, fait que peut-être que j'ai un biais de récent, mais écoutez, l'analyse des chiffres, c'est évidemment beaucoup critiqué. Je reçois beaucoup de ces critiques-là, particulièrement sur les réseaux sociaux. Il faut que je vive avec ça. Cependant, il y a des électeurs, des citoyens qui disent, par exemple, il y a trop de sondages pendant les campagnes électorales, ça dilue la conversation du public, ça fait qu'on ne parle que de sondages pendant une campagne et c'est malsain. J'accepte une partie de cette critique-là, mais elle est évidemment, comment je pourrais dire, elle est mal placée, cette critique-là. Parce que les sondages scientifiques, lorsqu'ils sont bien faits, les sondages constituent la seule information objective scientifique pendant une campagne. Tout le reste peut être manipulé, tout le reste peut être spiné par les politiciens et par des partisans dans le cercle médiatique. Alors, un sondage qui vous donne, par exemple, la CAQ en avance présentement, certains vont dire « oui, ça va décourager les électeurs à aller voter si la CAQ est trop en avance ». Oui, mais ça n'a rien à voir avec mon travail. Si les électeurs sont découragés d'aller voter si la CAQ est trop en avance, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai à faire. Moi, j'informe. Et c'est comme ça vraiment que je vois le rôle de ce que je fais et des sondeurs en général. C'est de l'information. Est-ce que l'information influence? Bien sûr que oui. Sauf qu'on voit de plus en plus aujourd'hui que le manque d'information ou la mésinformation, ça aussi, ça influence. Et donc, encore une fois, si vous me permettez une analogie de hockey, c'est comme dire les Bruins mènent 3-1 contre le Canadien après 2 périodes. Et des gens qui font « non, faut pas que tu le dises, ça va influencer la partie ». Bien sûr, la stratégie d'une équipe de hockey est différente si tu mènes après 2 périodes ou si tu perds après 2 périodes. Et donc, c'est un peu la même chose. Les politiciens, les partis politiques sondent constamment, du moins ceux qui gagnent et ceux qui sont compétitifs, vont sonder constamment. Donc, pourquoi est-ce que ces formations politiques-là auraient droit à l'information des sondages alors que certaines personnes dans l'espace public disent non, ça ne devrait pas être public. Ça devrait être public justement pour montrer quels sont les bons sondeurs, quels sont les sondeurs qui se trompent et de savoir filtrer de la bonne information, de la mauvaise information. Donc, est-ce que, évidemment, on regarde il y a un mois l'élection en Ontario, un taux de participation de 43%, historiquement bas. J'ai reçu combien de messages qui disent « c'est parce que vous avez dit pendant un mois que Doug Ford et le PC allaient gagner, c'est pour ça que les taux de participation étaient bas ». Moi, je leur dis « bien sûr que non, moi j'ai juste dit l'état des lieux. C'est les électeurs qui font leurs propres décisions ». Et donc, c'est un débat qui est actif, mais je suis capable, bien sûr, de défendre mon point de vue de ce côté-là.
Écoutez, vous avez parlé d'information. Évidemment, pour les sondages, on doit récolter des données démographiques. Quel genre de données démographiques que vous récupérez ou que vous utilisez pour faire vos analyses?
C'est une bonne question. Je vous dirais juste en préambule à cette question-là, pour informer aussi vos auditeurs, je ne fais pas de sondage. Je ne suis pas un sondeur. Je suis un analyste de sondage. Et donc, ce n'est pas moi qui va faire les sondages. Les sondeurs doivent récolter des données démographiques comme les tranches d'âge, les revenus, la scolarité, bien sûr, le genre, féminin, masculin ou autre, pour que leur sondage soit représentatif, leur échantillon soit représentatif de la population qu'ils espèrent sonder. Et ces données-là proviennent de Statistique Canada, du recensement, qui sont généralement, ces données-là sont généralement très fiables. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est ensuite, je vais ajouter les données démographiques. Comme j'ai dit, j'utilise les tranches d'âge, j'utilise la scolarité, bien sûr la langue. Au Québec, on ne peut pas vraiment faire une analyse politique sans parler de la langue maternelle. Donc, j'utilise ces données-là pour faire mes projections avec les sondages. Et donc, lorsqu'on voit, par exemple, si je vous dis d'une élection à l'autre, je ne sais pas moi, le Parti libéral a perdu 10 points. Bien, il n'aura pas perdu 10 points de façon uniforme partout au Québec. Il va perdre les 10 points qu'ils ont perdus vont être plus forts dans certaines régions, dans certaines tranches démographiques que dans d'autres. Et donc, il faut porter attention à ça. Et c'est la même chose, bien sûr, pour tous les autres partis. Donc, il faut faire une sorte de portrait démographique de des électeurs de chacun des partis pour essayer de voir comment ces variations-là de région en région vont s'effectuer. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a parfois des surprises, des effets hyper locaux qu'on va rater parce qu'il n'y a pas de sondages locaux, parce qu'il y a une petite, je sais pas moi, un petit scandale local qui ne fait pas les grands médias et que je vais rater et qui est difficile à chiffrer de toute façon. Mais en général, ça fonctionne très bien. Moi, mais l'élection d'Ontario le mois dernier était ma 10e élection et sur 10 élections, j'ai le bon gagnant dans 89% des circonscriptions. Le 11% qui reste, il y a un 6% que je n'ai pas le bon gagnant, mais le bon gagnant était dans la marge d'erreur et il y a un 5% que j'ai raté carrément. Et donc, un système qui a raison 9 fois sur 10, qui est dans la marge d'erreur 19 fois sur 20, je veux dire, c'est quand même assez fiable. Évidemment, lorsque je rate une circonscription, les gens de cette circonscription-là vont m'écrire. Je me rappelle, en Alberta, en 2019, j'avais eu, de mémoire, je crois que j'avais eu 83 des 87 sièges. J'avais le bon gagnant dans 83 des 87, mais parmi les 4 que j'ai ratés, j'ai reçu des messages « Tu connais rien, tu es fake news, ça n'a pas de bon sens, t'es pas fiable, je te croirai plus jamais. » J'étais comme « Ben oui, j'ai raté la tienne, mais j'en ai eu 83 autres. » Donc, faut dealer avec ça. Mais encore une fois, c'est statistique. Si j'ai des raisons 90% du temps, j'aimerais ça avoir raison 100% du temps. Mais statistiquement, c'est impossible. 9 fois sur 10, pour moi, c'est un bon résultat.
Évidemment, vous analysez des sondages. Qu'est-ce qui différencie un bon sondage d'un mauvais sondage?
Ben, écoutez, les sondages... Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a toujours du bruit et de l'incertitude dans chacun des sondages. Et donc, il ne faut pas regarder un seul sondage sans contexte. Et donc, c'est important quand on suit la progression des sondages, on va voir des petites fluctuations, mais s'il y a quelque chose qui change énormément, un chiffre qui a de l'air complètement hors norme, par exemple, si le sondage léger qu'on attend peut-être plus tard cette semaine ou la semaine prochaine, s'il montrait le Parti libéral à 30% au Québec, on pourrait sourciller et faire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui justifie qu'il y a eu une si grande hausse si rapidement? Ça, ce serait probablement une aberration statistique. Donc, un bon sondage d'un mauvais sondage, ben, on regarde bien sûr le découpage de l'échantillon. Est-ce qu'il y a assez d'hommes et de femmes? Est-ce qu'il y a assez de chaque tranche d'âge? Est-ce qu'il y a assez de francophones, de non-francophones, pour l'exemple du Québec? Et bien sûr, moi, je vais donner une cote aux sondeurs en regardant les sondages qu'ils ont faits juste avant les élections du passé. Est-ce que leurs chiffres étaient proches, suffisamment proches, dans la marge d'erreur, juste avant les élections du passé? Et donc, une firme qui se trompe tout le temps, ben oui, je vais pouvoir probablement douter de leurs chiffres. Alors qu'une firme, on prend l'exemple de la firme Léger au Québec, les dernières élections... au Canada, provincial, fédéral, Léger a vraiment été très proche. Donc, évidemment, lorsque Léger va publier un sondage, je vais lui donner plus d'attention parce que son historique récent a montré de la précision. Sauf que n'importe quel firme de sondage, même les meilleurs firmes de sondage, vont se tromper occasionnellement. Ça arrive, c'est inévitable. Il y a, bien sûr, de l'incertitude. Moi, je suis astrophysicien, je peux vous dire que les êtres humains sont beaucoup plus incertains que les électrons ou les galaxies. Les êtres humains, des fois, sont irrationnels. Des fois, ils cachent leurs intentions. Des fois, ils changent d'idée à dernière minute. C'est ce qu'on a vu en 2018. D'ailleurs, beaucoup d'électeurs ont changé d'idée lors du dernier week-end. Et donc, il faut se rappeler que c'est une science incertaine. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut rien. C'est encore de l'information, mais il y a de l'incertitude dans tout ça. Et c'est ce qui rend, je crois, la chose encore plus intéressante.
Oui, c'est ça, vous venez de le mentionner, c'est une science inexacte. C'est pas parfait, il y a une certaine marge d'erreur qu'on peut parfois même pas expliquer. Puis je vais relancer sur vos chiffres que vous avez mentionnés tantôt, qui sont des chiffres quasi parfaits, là, faut le mentionner.
Je dirais pas quasi parfait, mais acceptable. Assez pour avoir une certaine crédibilité, je dirais.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, si je peux nuancer mes propos, évidemment. Mais comment, lorsqu'on dit... où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Oui, c'est ça. On dit qu'ils sont très notables, ces chiffres-là, puis que la politique, au bout du compte, le vote, c'est pas une science parfaite, donc il y a des éléments qu'on peut pas prévoir à 100%. Mais les petites, est-ce que vous avez été capable d'expliquer justement les circonscriptions vous avez perdu, notamment vous avez annoncé le mauvais gagnant, quelles étaient ces erreurs-là finalement, pourquoi, selon vos données, c'est pas le bon gagnant qui a été nommé, ou justement c'est tellement inexact, c'est tellement varié, c'est vague les élections, que c'est un petit peu plus difficile pour vous de le comprendre, en fait, pourquoi vous êtes trompé?
Généralement, là, ça dépend évidemment du classement des circonscriptions. J'ai quatre catégories. J'ai les circonscriptions solides, probables, enclines et pivot. Si je rate un pivot, ben, le mot, il dit, c'était un pivot. Donc, présentement, si on regarde justement la circonscription de Sherbrooke, la projection actuelle qui va être mise à jour un peu plus tard cette semaine, j'ai la CAQ à 33 % et QS à 32 %. Si par exemple, ma dernière projection est ça, et il y a l'élection, et QS à 34 % et la CAQ à 33 %. Je n'ai pas le bon gagnant, mais j'étais entièrement à l'intérieur de mes marges. Et donc, pour moi, ça, c'est pas une conception qui est ratée. Je n'ai pas le bon gagnant, j'aimerais ça l'avoir, mais moi, ce que j'analyse parfois, c'est des circonscriptions où j'avais un candidat en avance par 10 points et qu'il perd par 2 ou 3 points. Ça, par exemple, oui, je vais me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Dans certains cas, il y a des sondages locaux qui était incertain ou qui était carrément faux, et donc ça induit en erreur le modèle. Dans d'autres cas, c'est, comme j'ai dit tantôt, des effets hyper locaux, des candidats qui ne sont pas des vedettes au niveau national, mais ils vont être des vedettes au niveau local, et on n'a pas de façon de le mesurer ou de le chiffrer. Et donc ça, c'est évidemment, je veux dire, je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas aller mettre mon opinion dans le modèle, mais c'est difficile d'aller chiffrer ça. Des fois, les sondages sont, malgré qu'ils ne sont pas entièrement faux, ils vont juste être un petit peu à côté. Et donc, en 2018, les sondages donnaient le Parti libéral autour de 30 % Finalement, il y a eu 25. Et les sondages donnaient la CAQ à 33 % Finalement, il y a eu 37 % Donc ça, c'était bel et bien. En fait, il faut différencier. Est-ce que c'était une erreur de sondage ou est-ce que les sondages n'ont pas vu le mouvement du dernier week-end? Et si on compare les chiffres finaux avec les chiffres de l'élection, on voit que le Parti libéral a été surestimé. Bien, évidemment, moi, j'avais les libéraux autour de 40 sièges et finalement, il y en a eu 31. Alors, c'est comme l'erreur est dans la bonne direction. Si les sondages indiquaient vraiment que le Parti libéral allait finir à 25 % je n'aurais pas eu 40 sièges pour les libéraux, j'en aurais eu quelque chose comme 30. Alors, je vous dirais que ce qui me donne des cauchemars la nuit quand je me réveille en sueur, c'est pas que les sondages aient tort. Ce qui me donne vraiment des cauchemars, c'est que les sondages aient raison et que moi, j'ai tort. Lorsque les sondages ont tort, et ben, c'est normal que je vais légèrement surestimer un parti ou sous-estimer un parti dans la direction de l'erreur des sondages. Sauf que, encore une fois, depuis l'élection de 2018, est-ce qu'il y a eu des grandes erreurs de sondage au Canada? Pas vraiment. Les sondages ont généralement été très bons. Bien sûr, pas tous les sondages. Tous les sondages ne sont pas créés égaux, mais lorsqu'on compare les chiffres finaux avec les résultats, on remarque que la moyenne des sondages est généralement très proche. Alors, oui, je vais vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsque je rate une circonscription qui n'était pas pivot. Je vais étudier ça. Généralement, ça s'explique par « Ah, les sondages s'étaient trompés de 2 points pour un parti, et donc, naturellement, je vais avoir eu le parti un peu trop haut ou un peu trop bas. »
Est-ce que, selon vous, les sondages sont importants dans l'opinion publique?
Ils sont cruciaux. Ils sont cruciaux parce que bannir les sondages ou empêcher les sondages peut-être une semaine ou 2 semaines avant l'élection, comme le font d'autres pays, encouragerait la rumeur. Les partis politiques profiteraient de ce vide médiatique pour pitcher leurs propres chiffres et dire « Ah, selon nous, on est à l'avance! » Et donc, ils essaieraient de manipuler l'opinion publique avec des faux chiffres. Et donc, c'est pour ça que... Et ça s'est fait en 2018. Je veux dire, la veille de l'élection, allez voir le compte Twitter de Jean-Martin Ossant, le 30 septembre 2018, il a publié un sondage bidon qu'il donnait gagnant dans Pointe-aux-Trembles, et le lendemain, il a perdu Pointe-aux-Trembles. Et donc, c'est des choses comme ça où les politiciens vont essayer de manipuler l'opinion publique avec « Ah, ben nos chiffres nous donnent quelque chose d'autre, et c'est pour ça qu'il faut avoir des chiffres publics, pour pouvoir dire non, c'est pas ça qu'on mesure, ou du moins, tu essaies de manipuler avec des faux chiffres. » On a vu la même chose en Ontario. La candidate libérale de London North Centre a publié ses propres chiffres à l'interne, pas de méthodologie, pas de nombre de sondage, qui la plaçait gagnante, et finalement, elle a terminé troisième. Et donc, il faut avoir des sondages indépendants pour justement mettre l'heure juste. Comme j'ai dit, les sondages, lorsqu'ils sont bien faits, c'est de l'information. Sauf que, bien sûr, on peut utiliser l'information ou la mésinformation pour influencer. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, bien sûr, si mon taux de rendement n'était pas 90 % mais il était 57, ah, OK, les détracteurs auraient peut-être un meilleur point. Si je me trompe constamment, si les sondages se trompent constamment, peut-être qu'ils diraient, ouais, peut-être que ça nuit au discours public. Et ça, ils auraient raison. Mais ce n'est pas ça qu'on voit présentement. Les gens qui vont pointer vers des sondages qui ratent la cible, bien, c'est comme pointer vers un écrasement d'avion pour dire, ah, voilà, tous les avions vont s'écraser. Bien sûr que non. On n'annonce pas dans les journaux les avions qui atterrissent doucement, les trains qui arrivent à l'heure. On médiatise ceux qui ratent leur coup, par exemple. Alors, oui, le fait d'avoir des sondages permet d'avoir de l'information sur l'état de la course. Et je vous garantis que si on n'avait pas ça, les politiciens en profiteraient pour mettre leurs propres mésinformations.
Puis, est-ce que les sondages peuvent influencer les électeurs dans leur choix? Si on parle, par exemple, des indécis, est-ce que les sondages vont les faire influencer tout le long d'une campagne électorale, par exemple?
Il y a eu des études là-dessus, et là, je ne commencerai pas à les citer parce que je ne les ai pas toutes lues, bien sûr, mais il y a plusieurs études dessus. Est-ce que vraiment les sondages vont influencer le choix des électeurs? Dans certains cas, peut-être, si votre choix est un peu mou, par exemple, vous n'êtes pas un partisan d'un parti en particulier, mais vous ne voulez vraiment pas qu'un parti rentre. Par exemple, si vous êtes à Sherbrooke et que, par exemple, encore une fois, c'est un exemple, mais vous ne voulez pas que la CAQ rentre et que vous êtes un électeur traditionnellement libéral, bien, si vous votez libéral, vous savez que vous allez perdre. Si vous êtes un péquiste, vous savez que votre parti va perdre. Mais si vous voulez vraiment pas que la CAQ rentre, est-ce que vous allez vous ranger derrière Québec solidaire pour lui donner des meilleures chances? Ça, c'est le choix de l'électeur. Est-ce qu'un sondage ou une projection locale pourrait influencer ça? Oui, ça pourrait, sauf que le but n'est pas d'influencer. Le but est d'informer pour justement prendre de meilleures décisions. Lorsqu'on a plus d'informations, on prend de meilleures décisions. Et donc, est-ce que ces chiffres-là vraiment change le narratif d'une campagne, peut-être, sauf que lorsqu'ils prennent une photo correcte de l'état des lieux, du portrait politique actuel, encore une fois, je le répète, c'est de l'information. T'sais, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, encore une fois, je reviens là-dessus, mais ils parlent de bannir les sondages pendant les campagnes. Je disais, je bannirais Facebook bien avant de bannir les sondages. Je bannirais les pancartes dans les rues et sur les autoroutes bien avant que je bannisse les sondages. Je veux dire, tout est fait dans une campagne pour vous influencer. C'est pour ça qu'il y a de la publicité. Radio, télévision, Internet, Facebook. Il y a de la publicité constamment pour vous influencer. Alors qu'un sondage, encore une fois, lorsqu'il est bien fait, va vous informer. C'est différent selon moi.
Monsieur Fournier, une petite question pour conclure cette belle entrevue-là. Si oui. Il y avait 3 comtés à surveiller aux prochaines élections, ça serait lesquels?
Ben, en fait, la bonne question est bonne, mais ça dépend. Surveiller dans quel but? Parce que si les chiffres se maintiennent, et on n'a aucune raison de croire qu'ils ne vont pas se maintenir, du moins à l'intérieur d'un certain écart raisonnable, la CAQ va l'emporter. Alors, dans le but des courses serrées ou dans le but de voir si un parti ou un autre, je veux dire, si vous surveillez le Parti libéral, moi, je regarderais les circonscriptions de Laval. Je regarderais la circonscription de la chef Dominique Anglade, Saint-Henri-Sainte-Anne, sur l'île de Montréal, qui n'est pas du tout une circonscription solide pour le PLQ à ce moment-ci. Si on parle de course serrée, ben c'est sûr que je nommerais Sherbrooke. Caroline Saint-Hilaire a été nommée comme candidate de la CAQ dans une circonscription qui est à Québec solidaire depuis 2018. Et donc, est-ce que le vote des jeunes et le vote étudiant en particulier va encore soutenir Québec solidaire pour battre la CAQ? Je vais surveiller ça. Est-ce que, par exemple, dans la circonscription de Chauveau, ça c'est en banlieue de Québec, lorsqu'on s'éloigne graduellement au nord de Charlebourg vers Stoneham, c'est la circonscription qu'a choisi Éric Duhaime pour se présenter. Est-ce qu'Éric Duhaime va faire son entrée à l'Assemblée nationale? C'est sûr qu'il va falloir surveiller Chauveau. Et le Bas-Saint-Laurent, est-ce qu'il reste du Parti québécois? Est-ce qu'il va réussir à survivre? On s'attend à ce que le député de Matane-Matapédia, M. Bérubé, on s'attend à ce qu'il passe assez facilement s'il se représente. Il dit qu'il va se représenter. S'il se représente, il devrait gagner. Mais est-ce que les autres péquistes vont survivre? Ça, c'est loin d'être sûr. Donc, je ne suis pas vraiment capable de vous dire seulement trois comtés, mais voici mon analyse de certaines régions à surveiller.
Merci, M. Fournier, merci beaucoup encore une fois pour votre temps. On vous souhaite une bonne continuité dans vos travaux, par rapport à la campagne, bien évidemment, mais aussi dans votre enseignement au cégep. Puis on vous souhaite un bon été également.
Très apprécié. Merci beaucoup, messieurs. Et oui, bonne campagne à l'automne. Je suis sûr que vous allez suivre ça de près, et moi aussi. À bientôt.
À bientôt.